Bonjour à tous. Jacques Lacan a ses adeptes et ses détracteurs, ceux qui l'adulent et ceux qui le haïssent. Aujourd'hui, remontons l'histoire, regardons les faits et essayons de comprendre comment Lacan a-t-il réussi à se tailler une place de choix, une place de maître, au début des années 60. Comment est-il devenu le personnage clé de la scène intellectuelle de cette période? Et pourquoi divise-t-il autant? Comment Lacan est-il devenu Lacan? C'est le sujet du jour. Oh Bonjour Elisabeth Rodinesco.
Bonjour.
Bienvenue sur le chemin de la philosophie.
Merci.
Vous êtes historienne de la psychanalyse, chercheure associée au département d'histoire de Paris 7, auteure d'un dictionnaire de la psychanalyse, d'un dictionnaire amoureux de la psychanalyse et d'un livre, une biographie de Lacan qui s'appelle Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée. Depuis lundi, des philosophes, psychanalystes et écrivains sont venus à ce micro où vous vous trouvez aujourd'hui pour nous parler de Lacan, de sa pensée, de sa pratique, de son œuvre, de ses lectures. Et au terme de ces quatre émissions, il reste une question à élucider. Comment expliquer que Lacan suscite autant de sentiments contradictoires, tantôt adulés, tantôt taxés de manipulateurs? Alors si c'est à vous que je pose la question aujourd'hui, Elisabeth Rodinesco, c'est parce que lorsque votre livre « Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée », donc la biographie de Jacques Lacan, est sorti en 1993, eh bien il a provoqué le même type d'effet contradictoire. Comment l'expliquez-vous?
C'était une véritable folie en 1993. Faut-il brûler Lacan? Lacan, des réactions incroyables en deux mots. C'était, d'un côté, ce livre est formidable parce qu'il montre que Lacan était un escroc qui battait ses domestiques. En gros, c'était ça. Et de l'autre côté, ce livre est infâme parce que il détruit Lacan en montrant qu'il était un salaud. Donc, c'était ni l'un ni l'autre. Alors, maintenant, pourquoi est-ce qu'il divise? D'abord, la psychanalyse. L'analyse divise depuis le début. Elle est haïe, détestée, Freud aussi, et Lacan encore plus. Pourquoi encore plus? Parce que Lacan est un personnage transgressif, auteur d'une œuvre pas facile à lire, clinicien transgressif aussi. Je l'ai beaucoup comparé à Salvador Dali, marqué par les surréalistes, clinicien de la psychose, de la folie, ce qui compte aussi. Donc, tout est extrême chez Lacan. Il a été célèbre dès les années 30, même si ensuite il n'y a pas d'œuvre écrite avant la publication de ses écrits en 66, mais il est devenu célèbre par une thèse en 1932 sur un cas de paranoïa.
La thèse s'appelait « De la psychose paranoïaque dans ses rapports avec la personnalité
voilà. ».
On s'y réfère en l'appelant le cas aimé,
le
du
cas
nom
aimé,
du prénom de la personne
le prénom
malade.
De la personne qui, ensuite, que j'ai pu identifier, et qui en fait était la mère de Anzieux, le grand psychanalyste. Et c'est une histoire incroyable, c'est une histoire incroyable, parce que elle a donc été à Sainte-Anne parce qu'elle avait tenté d'assassiner une comédienne. Lacan fait toute cette observation. C'était vraiment un cas de paranoïa, d'autopunition. Il n'y a pas de doute. Et ce grand cas est célébré moins. Pas du tout, pas le milieu psychanalytique de l'époque où il n'y avait pas de maître.
On est en 1932.
32.
Oui,
l'accueil est inouï.
En France?
En France.
Donc les psychiatres à ce moment-là, Lacan.
Alors, pas seulement, les écrivains. Crevel, Nizan.
Non mais Lacan est psychiatre au moment où il
publie
sa thèse. Ah
oui, il n'est pas encore psychanalyste. Il le devient entre 32 et 38. Et ça fait un effet extraordinaire parce que c'est écrit, d'ailleurs comme les cas de Freud, c'est magnifiquement écrit. Il y a une énorme réflexion sur la folie. C'est à la fois déjà phénoménologique, spinoziste. Enfin, c'est pas encore la psychanalyse. C'est en fait, on voit qu'il y vient dans cette histoire. Et c'est la description de cette femme, en plus, qui marque l'opinion, puisque elle tente d'assassiner une actrice, et Lacan montre qu'en fait, c'est un problème d'autopunition, que c'est l'image d'elle-même qu'elle voudrait être et qu'elle fait ce geste, donc un geste criminel.
Donc à ce moment-là, il n'est pas encore critiqué, Lacan, quand paraît ce texte.
Non seulement. Alors, si, dans le milieu psychanalytique, cette thèse de 32, pourquoi est-ce qu'elle frappe les psychiatres? Parce que c'est une thèse qui montre que la folie n'est pas d'origine constitutive, on dirait aujourd'hui innée ou biologique. Et il montre qu'elle est quand même liée à l'histoire d'une personne. Voilà. Et que il fait tout l'historique de la folie de cette femme. Et à cette époque, les surréalistes s'intéressent énormément aux femmes criminelles. À ces cas de, ensuite, il y aura Violette Nozière, il y aura les sœurs Papin. Les femmes criminelles frappent l'opinion publique. Et cette thèse est reçue parce qu'elle est d'une extraordinaire intelligence, et elle est lue par le milieu littéraire d'un côté, le milieu psychiatrique de l'autre. Donc, chez les psychiatres, elle est accueillie comme une critique radicale de la doctrine dite des constitutions, hein, c'est-à-dire c'est inné, voilà. Et par le milieu littéraire qui s'intéresse passionnément à la psychanalyse, elle est un manifeste, un véritable manifeste. Donc il est célèbre en 32 dans ce petit milieu, hors la psychanalyse. Ensuite, donc cette thèse, elle sera rééditée beaucoup plus tard. Elle sera rééditée en 1975. Lacan n'avait pas republié. Donc là, il a cette célébrité. Ensuite, Lacan suit les cours, les séminaires d'Alexandre Kojève, qui l'initie à la pensée hegelienne. Donc, autre chose nouvelle, alors qui n'est pas perçue, parce qu'il ne publie pas à ce moment-là, il publie des petits articles, mais mine de rien, que fait Lacan pendant ces années-là? Évidemment, sa formation.
Donc l'entre-deux-guerres. Hein. Là, on est entre-deux-guerres.
La formation, sa formation psychanalytique, mais surtout, il fréquente Georges Bataille, le séminaire de Kojève. C'est le premier intellectuel pour la psychanalyse. Il n'y en avait pas avant. C'était des médecins, une princesse, Marie Bonaparte. Il n'y avait pas de grande œuvre théorique en France. Et Lacan apparaît très vite comme quelqu'un qui est au-dessus de la mêlée.
Parce qu'il va suivre des cours de philosophie, parce qu'il s'intéresse à Hegel, à l'existentialisme, à la phénoménologie.
Exactement. Pas l'existentialisme encore, mais la lecture que je vienne de Hegel. Et il fréquente aussi Georges Bataille. Tout le milieu intellectuel de l'époque. La revue de Georges Bataille, il va ensuite avoir une liaison avec l'ancienne femme de Georges Bataille, Sylvia, qui va ensuite devenir sa femme. Et Lacan est connu, et en 38 quand même, il y a un article fabuleux, très long, sur la famille, qui avait été demandé pour l'encyclopédie par Vallon et Lucien Febvre. Et c'est une magnifique réflexion sur la famille occidentale. Donc Lacan est connu. Absolument pas aimé dans le milieu psychanalytique de l'époque, qui est assez conformiste.
Mais à quoi ressemble la psychanalyse dans l'entre-deux-guerres en France ?
La psychanalyse dans l'entre-deux-guerres en France, c'est d'un côté la Société psychanalytique de Paris, de l'autre côté la psychiatrie, qui est absolument marquée par l'œuvre de Freud, par la phénoménologie, par la phénoménologie psychiatrique, donc par ce qu'on appelle la psychiatrie dynamique, dont Lacan fait partie. L'approche psychique de la maladie mentale. Il n'y a pas encore les médicaments, et ça c'est un progrès considérable.
Alors pourquoi est-il déjà critiqué? Est-ce parce qu'on sent en lui déjà une volonté transgressive?
Tout à fait. Il est infernal.
Parce que suivre des cours, c'est sa personnalité. Suivre des cours de philosophie, c'est pas.
Oui, non,
en soi,
c'est très
pas.
Très pourquoi mal vu. Pourquoi très mal vu parce que dans cet entre-deux-guerres, même si Marie Bonaparte, par exemple, n'est pas médecin, l'idée de la Société psychanalytique de Paris, c'est que ça doit être réservé aux médecins. Et Lacan, d'accord, il l'est, il est psychiatre, mais il fréquente en dehors du milieu psychanalytique. Il est odieux, il est désagréable, on considère qu'il parle beaucoup trop longtemps, qu'il a ce langage ahurissant, il est extrêmement critiqué. Sauf par un très grand grammairien, Édouard Pichon, vous avez tous lu La grammaire d'Amourette et Pichon.
Ah bah non, peut-être qu'on va le faire après vous avoir entendu.
Un des plus grands grammairiens français avec son oncle, d'Amourette et Pichon, qui est bizarrement, enfin, Édouard Pichon est un personnage extraordinaire, il est membre de la Société psychanalytique de Paris, membre de l'Action française, marqué par Maurras. J'ai fait j'ai vraiment tout cherché. Il est mort en 40. C'est un Maurassien, Dreyfusard. Ça existe.
Oui.
Tout existe. Mmh. Voilà. Et Pichon est un formaliste de la langue. Il voit Lacan, il admire Lacan comme jeune homme, enfin comme jeune qui a de l'avenir, et il lui dit, quand il fait son article sur la famille, Pichon dit « Redevenez français, monsieur Lacan, et n'allez pas vers la langue germanique. » L'idéal de Pichon était de franciser l'œuvre de Freud. C'est un personnage extraordinaire, Pichon. Et donc, il est reconnu de ce côté-là. Mais Édouard Pichon est très particulier dans la Société psychanalytique de Paris. C'est un pédiatre bien français. Il va former Françoise Dolto. Et donc, Lacan est porté quand même par ça. Parce que lui, il comprend l'enjeu intellectuel. Mais Pichon est anti-hégélien, anti tout ce que Lacan fréquente. Mais il voit le talent. Il voit le talent.
Mais est-ce qu'il n'y a pas le désir chez Lacan d'occuper une position libre en France, à savoir celle peut-être d'un maître, et le terme a été beaucoup employé à son égard, en tout cas d'un représentant de la psychanalyse qui serait l'équivalent de Freud dans le monde germanique, qui serait l'équivalent plus tard de Melanie Klein aux États-Unis, de Winnicott en Angleterre.
Non,
la place était libre
non,
et Lacan.
C'est délibéré.
C'est ça.
Et Lacan
donc il y a presque une forme de politique de la psychanalyse de
tout
sa part qu'il met
Lacan
en œuvre.
Lacan se prenait pour Lacan avant d'être Lacan. Je lui raconte une anecdote quand il fait son voyage de noces à Rome avec sa première femme. Là, il est connu d'un petit milieu. Il arrive dans son hôtel favori qu'il va fréquenter toute sa vie et il dit « Je suis le docteur Lacan ». Il se conduisait, qu'il soit célèbre ou pas encore, comme un personnage, un maître. Toujours, il en rêvait. Il était assez extravagant, il avait une voix, alors à la fois classique et extravagant, il avait cette voix qu'on connaît, qui existait déjà, il s'habillait comme un dandy, il avait des comportements très libertins 18e, c'est un homme du 18e siècle, pas du 19e. Ça, donc sa relecture de Freud est une très grande originalité. Il n'a jamais rencontré Freud. Il n'est pas du tout freudien au sens classique. C'est une relecture à lui de Freud. Freud était marqué par Darwin, beaucoup plus classique, une écriture plus classique. Et au fond, il remet la philosophie allemande dans la pensée de Freud. C'est le premier point. Il en fait une théorie du sujet. De la subjectivité. Et deuxièmement, il sort donc du chauvinisme français. Et puis, il est psychiatre. Ça, c'est très important. C'est la clinique de la folie. En ce sens, il se rapproche de Mélanie Klein, de la deuxième génération.
Alors, comment Lacan a-t-il été perçu par ses contemporains, qu'ils soient psychanalystes ou philosophes, grâce au documentaire réalisé par Elisabeth Capniste en 2001, auquel vous avez collaboré, Elisabeth Rodinesco? Nous pouvons entendre certains témoignages de gens qui l'ont bien connu. En voici deux. Alors, peut-être pas contradictoire, mais en tout cas opposé. Le premier, Jean-Bertrand Pontalis, qui raconte comment Lacan, à Sainte-Anne, faisait preuve d'une grande bienveillance, d'une grande écoute à l'égard de ses patients. Et ensuite, Jacques Derrida, qui lui dénonce une forme de séduction du lacanisme et surtout de Lacan.
Lacan était extraordinairement, je dirais, courtois avec ses malades. Les traitant donc pas du tout comme des patients d'asile, mais vraiment comme c'est la moindre des choses, vous me direz, mais c'est pas toujours le cas, comme des êtres humains. Et les amenait peu à peu, créant vraiment une atmosphère de confiance, à les laisser parler très, très librement. Alors pour l'anecdote, parce que c'est assez savoureux, je me souviens qu'une fois il y avait une femme qui était une paranoïaque qui se plaignait qu'on l'a suivi partout, on me suit, et Lacan, à la fin, lui dit, ne vous inquiétez pas, chère madame, parce qu'il disait, chère madame, je vais trouver quelqu'un pour vous suivre, entendant par là, pour un médecin qui pourra vous traiter.
Il cherchait à la fois à me séduire et à m'attirer dans son champ d'appartenance, dans sa discipline, disons. Et voyant que je ne me prêtais pas à cette scène, c'était la guerre, c'était donc l'agression. Et donc j'ai lutté en moi, et je pense aussi sur la scène, j'ai lutté pour ne pas réagir ni à l'appel séducteur, ni à l'agression. Je crois que je ne l'ai jamais fait. Et le temps passant, je dois dire, ça c'est aussi le post-mortem, le temps passant, mais je savais que ce serait comme ça de son vivant déjà, le temps passant, j'ai fini par, au fond, aimer cette scène, aimer cette mémoire. Enfin, ici, voilà, ça s'est passé, il y a eu une espèce, il y a eu séduction, il y a eu guerre, il y a eu silence, il y a eu beaucoup de silence, un énorme silence.
Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, il est 10h16, bienvenue sur les chemins du vendredi où nous parlons de Lacan aujourd'hui en compagnie de l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco. Nous venons d'entendre la voix d'abord de Jean-Bertrand Pontalis puis celle de Derrida. Revenons sur le témoignage de Derrida, si vous le voulez bien, Elisabeth Roudinesco, parce que celui-ci montre qu'il essaye de ne pas prendre parti, mais il pointe cet énorme silence qui entourait Lacan. C'est quoi? C'est une forme de terreur que lui-même installait ou une gêne à l'égard d'une toute forme de prise de position?
Je crois que, quand même, un tout petit mot sur Pontalis, c'est pas la même chose. Pontalis a été son élève, il l'a quitté. Il l'a quitté, tout le monde quittait Lacan.
Donc Pontalis a été formé, donc voilà, commençons par Pontalis par si vous voulez. Voilà. Pontalis a été formé par Lacan.
Rend hommage en 2001 dans ce film, alors qu'il avait eu la guerre avec Lacan, lui aussi. Mais il sait rendre hommage au génie clinique de Lacan.
Vous dites tout le monde a quitté Lacan, c'est-à-dire tous ceux qui ont été formés par lui l'ont ensuite
quitté. On ne pouvait pas rester avec Lacan si on voulait en hériter et l'admirer, parce que...
Mais il y a encore des gens aujourd'hui qui ont été formés par lui, en analyse avec lui.
Alors, moi je dis qu'il faut savoir hériter, même si on a été en analyse, et ne pas continuer à idolâtrer le maître en le répétant.
Non mais ne pas s'être fâché avec lui, ça ne veut pas dire qu'on l'idolâtre.
C'est-à-dire que c'était très difficile. J'ai très bien connu Lacan, j'étais membre de son école. J'aime beaucoup l'hommage que rend Derrida, qui dit, au fond, cette scène m'est restée, ça a été la guerre. Et puis, après, Derrida a quand même écrit Pour l'amour de Lacan. C'est un texte magnifique, après avoir eu des polémiques. Derrida, c'est une autre génération, il a polémiqué avec Lacan. Oui, Lacan, plus il avançait en âge, plus il réclamait une sorte de culte de sa personne, beaucoup plus que Freud, autant que Mélanie Klein, sans aucun doute, presque autant. Les cultes des maîtres, on connaît. Donc la meilleure façon de ne pas céder à ça, c'est d'avoir une certaine distance. Moi, je l'ai eu.
Donc vous n'avez pas été en analyse avec lui?
Ah non.
Vous avez suivi ses cours?
Ah oui, je l'ai bien connu. Et puis ma mère était membre du conseil d'administration de l'école freudienne de Paris, de la même génération que Lacan, ils étaient très amis. Ma mère était médecin des hôpitaux, avait introduit en France les théories de Bowlby et s'occupait d'enfants. Et elle était très amie avec Lacan, qui la respectait, compte tenu de ce qu'elle était. Et donc moi j'étais un peu préservée quand même du culte direct. J'aimais beaucoup Lacan, mais je ne marchais pas dans les grandes séductions de Lacan. Donc je suis pas allée en analyse chez lui. D'ailleurs à cette époque-là il faisait des séances ultra courtes, déjà 10 minutes, presque déjà 5 minutes, dans les années 70, il avait dissous le temps des séances avec un côté transgressif.
Alors ça, vous pensez que c'est vrai? Parce que justement, les discours divergent. Certains disent, mais non, c'est un mythe, ça ne durait pas 5 minutes, sinon les analyses n'étaient pas possibles.
Je l'ai établi, j'ai des témoignages que j'ai publiés directs de gens qui ont fait ces séances-là, et c'est établi. Aujourd'hui, ça ne peut pas être nié. Tout simplement parce qu'on peut regarder, avec les archives que j'ai quand même retrouvées, le nombre de patients que Lacan, il faut faire une étude quantitative, le nombre de patients qu'il avait. Quelquefois, quand un élève de Lacan de cette époque me dit « mais moi j'avais 20 minutes », je dis « c'est pas possible ». Il recevait tant dans la journée, donc c'est pas possible. Voilà. C'est fantasmatique. Mais il y en a qui croient qu'ils avaient un temps long, et en fait, ça n'est pas exact.
Mais pourquoi est-ce un problème, en fait? Puisque si le principe de l'analyse est quand même de faire parler autre chose que la conscience qui peut regarder sa montre et savoir combien de temps ça dure. Alors, si en 5 minutes, la parole prononcée est efficace ou cerne quelque chose, et si le psychanalyste en question arrête la séance au moment où le mot est prononcé, on va pas se forcer à proposer une séance de 30 minutes.
Alors, c'est un débat qui a duré 40 ans. Au départ, Lacan critique à juste titre cette idée des séances à temps fixe de 55 minutes à l'époque.
C'était le cas avant.
C'était 55 minutes. Avant. Alors, ça reposait sur une doctrine de l'international psychanalytique qui, au départ, était pas fausse. C'est qu'on doit accorder un temps au patient. À l'intérieur de ce temps, qui était 50 minutes, c'était un héritage, puis 45 minutes, c'était l'idée que on lui octroyait un temps pour lequel il payait pour sa cure. C'était une protection du patient contre les gourous. Et c'était une règle. Lacan a eu raison de la mettre en cause sur le mode, et si le patient a rien à dire, au bout de 45 minutes, c'est beaucoup trop long, il faut faire ce qu'on appelle la ponctuation. L'idée était juste.
La ponctuation, qu'est-ce que ça veut dire?
Eh bien, ça veut dire intervenir sur des choses signifiantes, pas laisser s'enliser la longueur des cures, la longueur des séances, et pouvoir intervenir sur une chose très particulière. Alors, au départ, c'était une bonne idée, sauf que c'est devenu progressivement une règle, et que du coup, la ponctuation était telle qu'il diminuait le temps des séances. Alors, ce qu'on a pu établir à partir des archives, et je l'ai fait, c'est que la grande rupture de Lacan avec les années 60, où il a été exclu comme didacticien de l'international, c'est extrêmement simple. C'est que il avait transgressé cette règle à un point tel qu'il avait tous les analystes en formation dans la société. Tout le monde venait vers Lacan, Pontalis lui-même. Il a formé tous les grands psychanalystes des années 60. Enfin, en tout cas, les plus brillants. Et ils se sont aperçus quand même que les séances, c'était plus la ponctuation, que Lacan pouvait absolument pas dire non, qu'il avait besoin d'avoir autour de lui tous les futurs psychanalystes, et que ça diminuait.
Oui, mais les gens allaient vers lui volontairement.
Ah ben bien entendu. Mais
si ça avait été un tel problème, pourquoi est-ce que tous les psychanalystes de son époque auraient été chez lui pour se former?
Parce qu'il était génial, et que, évidemment, aller en analyse chez Lacan, quand on voulait devenir psychanalyste à cette époque-là, c'était le grand maître. Il y avait son séminaire, il y avait d'ailleurs une continuation qui a duré entre séminaire, séance d'analyse. Au fil des années, quand il a réduit de façon incroyable le temps des séances, en fait, les gens venaient et restaient dans le salon d'à côté, refaisaient une séance. C'était ce que j'ai appelé le laboratoire de l'extrême à la fin. Alors, cette dissolution du temps des séances a fait l'objet de discussions. Dans mon livre, j'en parle pendant, mais vraiment, des pages et des pages, pour expliquer que c'était devenu une passion. Une passion.
Donc lui-même aurait été pris à son propre jeu et qu'il voulait prendre le plus de personnes possible en analyse et donc leur proposer 5 minutes uniquement pour pouvoir prendre le plus de gens possible.
Oui, mais par passion. Pas seulement par désir d'argent.
L'intention importe peu.
Ça n'est pas tout à fait
ça. Alors l'argent, c'est un autre point.
Ça existe.
C'est ça, c'est demander 500 francs pour 5 minutes.
Je me suis fait insulter pour l'avoir dit. Oui, Lacan aimait l'argent. Mais attention, il ne faut pas réduire Lacan à ça. Il y avait aussi chez Lacan autre chose qui était tragique à la fin de sa vie. Il pouvait quitter personne, il pouvait refuser personne, sans compter qu'il y avait des patients. Il n'était pas seulement l'analyste des analystes. Il y avait aussi des patients. Il y a beaucoup de témoignages. Parce qu'il avait un sens clinique aigu. Et puis, n'oubliez pas aussi, il était plus un grand clinicien de l'extrême, de la psychose que de la névrose. Il était, avec cette formation, et les psychotiques. Très souvent, les vrais psychotiques, en privé, on ne peut pas faire des séances très longues. Ça, c'est bien connu. Parce qu'ils bougent, ils font des tas de choses dans le cabinet. On peut pas... bon. Donc, Lacan avait, en quelque sorte, un peu psychotisé les cures. Alors, ça a fait des scandales, des discussions, à n'en plus finir, des livres entiers, je ne peux pas... Bon. Mais c'est un vrai débat. C'est un vrai débat. Et d'ailleurs, aujourd'hui... les Freudiens et les Lacaniens du monde entier, raisonnables, ont fini dans un compromis. C'est-à-dire, on a conservé l'idée qu'il faut un temps de séance fixe à l'intérieur duquel on peut ponctuer les séances. Aujourd'hui, c'est entre une demi-heure et 45 minutes. Il est classique quand même qu'un psychanalyste prenne ses patients, je dirais, tous les 45 minutes ou toutes les demi-heures, même si on peut ponctuer la séance à l'intérieur, on lui réserve ce temps. Parce que sinon, il y a 40 personnes dans le salon d'attente qui se connaissent, et on ne préserve plus, au fond, l'intégrité du patient dans son corps et dans son psychisme. Donc j'ai condamné à ce titre la folie des séances courtes qui existent. Mais le mouvement psychanalytique mondial a su hériter, je dirais, de la grandeur de Lacan en rejetant, au fond, ses défauts et son extrême. C'est pour ça que j'aime bien aussi le témoignage de Derrida. C'est lui, pour moi, il a été très important, Derrida, ne serait-ce qu'avoir dit que pour être fidèle, il faut être infidèle. C'est quand même une phrase que je répète toujours, c'est-à-dire savoir hériter de quelqu'un de façon, je dirais, raisonnable et même passionnée. Il faut savoir être critique, hériter de...
Il faut tuer le père, on pourrait dire, en termes
psychanalytiques. Oh, moi, je dis pas ça comme ça. Je préfère la phrase de Marc Bloch que j'ai mis.
Que vous citez, Robespierriste, anti-Robespierriste, nous vous crions grâce, par pitié, dites-nous simplement quel fut Robespierre. Voilà. C'est un exergue de votre livre.
Voilà. Et j'ai eu les anti-Robespierristes et les Robespierristes contre moi. Voilà.
Oui, mais parce qu'on peut jamais vraiment dire qui était l'homme. Même dans votre biographie, c'est un grand travail d'archives, mais on peut pas prétendre une objectivité absolue.
Alors, bien entendu, il n'y a jamais de savoir absolu sur quoi que ce soit, sinon il n'y aurait pas d'historien.
Non, mais même d'objectivité, oui.
Il y a une certaine objectivité en histoire à laquelle je tiens, qui est de ne pas dire des faits faux. Après, vous les interprétez, mais il faut les établir. Vous me demandiez tout à l'heure comment est-ce qu'on sait. On sait. On a les témoignages, on a le nombre de patients par jour, on a les agendas, on a énormément de choses. Enfin, tous les témoignages. De toute façon, il y a beaucoup de témoignages sur les gens qui étaient anésés par Lacan. Mmh. Ils n'ont pas nié avoir eu des séances même d'une minute. J'ai d'ailleurs pas publié tous les témoignages parce que c'était trop fou à la fin. Mais si vous voulez, à partir de là, on peut interpréter. Mais il faut des vrais faits.
On peut pas vérifier nos sources.
Il y a une objectivité.
Alors,
Il y a une interprétation.
C'est ça.
Alors, mon Lacan, c'est mon Lacan. Mmh. Il y en a d'autres. Moi, le transgressif libertin, qui n'est pas un bon grand-père, ni un homme normalisé, mais un personnage. Solaire s'en a donné une belle description autrefois. Oui, Philippe Solaire. Il y a cet aspect-là de Lacan. Quand vous entendez sa voix, quand vous voyez les archives qu'on a...
Écoutons-le, justement. Oui, c'est une des sources à laquelle nous pouvons puiser.
Il a porté une génération par sa voix, par son enseignement oral.
Et précisément, on a parlé du Lacan analyste dans son cabinet, dans ses séances courtes, et de la somme qu'il demandait à cet égard. Écoutons le Lacan, cette fois-ci professeur, écoutons-le lors de cette conférence à l'Université catholique de Louvain.
Qui est l'unique archive.
C'était le 13... Enfin, l'unique archive, comment ça ?
L'unique archive en liberté, parce que Télévision est une autre archive, c'est un film de Benoît Jacquot, mais qui est répété, qui est un film construit.
Oui, mais alors il y a les archives de radio, de Lacan, archives de séminaires. Oui, c'est ça, voilà. Mais là, on est le 13 octobre 1972, c'est dans le documentaire Lacan parle, qui est réalisé par Françoise Wolff. Cette archive est très intéressante parce que au moment de prononcer sa conférence, Lacan se fait interrompre par un étudiant situationniste, Jean-Louis Lippert, qui est prêt à lui jeter de la farine sur le visage. Lacan garde son sang-froid et la façon qu'il a de lui répondre est absolument implacable. Écoutez.
Moi, j'ai regardé dans une
heure. Oh,
oui.
Vous allez me brutaliser ? Mais je m'exprime à ma façon, comme ce monsieur. Est-ce que vous me comprenez ?
Oui, je vous comprends.
Il est clair que au moment où nous en sommes pour le moment, une de nos cibles préférées seront ces moments précis où des gens comme vous sont en train de venir apporter à tous ces gens qui sont là la justification de leur misère quotidienne. Au fond, hein, c'est ça que vous faites, vous, hein ?
Ah, pas du tout.
Oui.
Que ça change pour une nouvelle organisation. Cette organisation, c'est pas du tout exclu qu'on la voit naître. Ah, on la voit sous forme de régime qui s'intitule eux-mêmes, mon Dieu, pour ce qui est leur aspiration en effet suprême, n'est-ce pas ? C'est la totalité, enfin, c'est comme il vous disait là, à l'instant, enfin, n'est-ce pas, qu'on y soit tous. Hein? Organisation, qu'est-ce que ça veut dire si ce n'est pas un nouvel ordre, hein? Un nouvel ordre, mon Dieu, c'est le retour à quelque chose qui... Si vous avez bien suivi ce que je vous ai dit et d'où je suis parti, enfin, est quelque chose qui est de l'ordre de quoi ? Mais du discours du maître, tout simplement, n'est-ce pas ? c'est le seul mot qui n'ait pas été prononcé dans tout ça, mais que le terme même d'organisation implique.
C'est la réponse de Lacan finalement au mouvement de 68. On est 4 ans plus tard. Hein, Elisabeth Roudinesco, elle dit voilà, mais votre mouvement, votre révolution, votre organisation, en fait, n'est rien d'autre que la demande d'un maître.
Absolument.
Et je serai ce maître, n'est-ce pas? C'est ce qu'il
Alors,
dit.
Alors, c'était sa thèse. Il y avait un vieux fond quand même d'anarchisme classique hein, chez Lacan.
D'anarchisme.
Oui.
Lui qui voulait tellement être.
Non. Lacan votait. On sait qu'il était mendésiste. Il était entouré de la gauche. C'était l'Express. Mais c'est pas ça. Intellectuellement, Lacan considérait que la psychanalyse était le discours le plus génial auquel on devait se référer. Que ça dépassait la philosophie. Enfin, lui. Héritier de Freud, était capable de l'incarner. Il y avait cette idée-là. Alors, par rapport à 68, on peut comparer avec Sartre, hein, les contemporains alternés. Sartre était le frère, celui qui, au fond, accompagnait les révolutionnaires. Et nous savons aujourd'hui que s'il n'y a pas eu les dérives italiennes en France, c'est parce qu'il y a eu d'un côté Lacan et de l'autre côté Sartre. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Poirot d'Alpech. C'est-à-dire que les deux ont joué un rôle énorme pour, au fond, canaliser les violences et que ça ne se termine pas en actes terroristes. Et c'est vrai, j'ai pu établir que beaucoup de... après l'expérience de 68, notamment les maoïstes et la gauche prolétarienne, ils sont quand même allés sur le divan de Lacan. C'est « venez à moi ».
Il faut dire que Lacan, à ce moment-là, pour le coup, parce qu'on a fait un bond en avant historique, occupe une place centrale dans le monde intellectuel, universitaire et psychanalytique.
Centrale.
Il a publié ses écrits en 66. Voilà. Ont été énormément lus, et il a tout fait, pour le coup, en sachant où aller et à qui parler, pour occuper cette place intellectuelle.
Il avait cette capacité, il avait peur de rien, Lacan, certainement pas.
On l'a entendu dans l'archive, il n'est pas du tout impressionné par cette
Il faut voir l'image. Le type lui balance des trucs, bon, il fait comme ça, donc il avait l'habitude, en plus.
Mais dès qu'il dit un mot, il se fait applaudir par toute la salle,
Alors,
pour le coup, ça c'est frappant.
Parce qu'il y avait ses partisans. Ouais. Mais il y a une autre archive, que, hélas, il n'y a pas été enregistrée, c'est l'impromptu de Vincennes. On a le texte, moi j'y étais, j'ai vu comment, agressé par des gauchistes, etc., il était capable de leur parler, il désarçonnait. Alors là, on a un public acquis, mais même s'il n'y a pas les applaudissements, on sait que Lacan pouvait désarçonner n'importe qui avec son génie de la parole, de l'interprétation immédiate, là vous le sentez, pas du tout, bon, etc. Alors, sa pensée politique, c'était ça à ce moment-là. Les révolutions ne font que reconduire un autre ordre, donc des maîtres. Et votre désir de révolution, disait-il, c'était un désir de retrouver un autre ordre. Moi, je n'étais pas trop d'accord avec ça. Mais il était quand même assez... Moi, j'ai toujours admiré les gens qui avaient du génie. Alors après, on en fait ce qu'on veut, soit... D'ailleurs, c'est un peu l'attitude de Derrida.
Mais c'est étonnant d'entendre de la part d'un psychanalyste cet appel à l'ordre en disant en fait vous voulez simplement un autre ordre. C'est-à-dire que lui n'est pas du tout dans une forme de déconstruction où finalement il n'y aurait pas un ordre normatif mais chacun doit suivre son désir. C'est quand même le but de la cure. Et lui dit non, en fait, tout ce que vous exprimez c'est le besoin d'un maître.
C'est le désir d'un maître.
Le désir d'un maître dans une structure pyramidale là, au sommet de laquelle il se trouverait.
C'est plus compliqué parce que c'était un maître déconstruit, Lacan. On ne va pas faire croire que Lacan était un chef d'État. Qui allait être le maître de l'ordre, pas du tout. Il était un désordre incarné. Donc cet homme qui avait, au fond, pensé la revalorisation symbolique du père et du patriarcat dès 38, mais qui n'était pas du tout le retour du père réel, qui était un homme qui passait son temps à une critique radicale de la société d'ordre, mais qui en même temps sondait complètement ce que voulait dire ce désir d'ordre. Donc Lacan était un désordre incarné qui appelait à une, surtout en tout cas, à une civilisation. Il était démocrate, hein, fondamentalement. Donc Lacan n'était pas favorable ni au terrorisme, ni aux dérives armées, ni à tout ça. Mais dire que Lacan était un homme d'ordre qui serait devenu une sorte de fasciste autoritaire, mais jamais de la vie, c'est ne pas le connaître. Il était lui-même un désordre incarné.
Et pourtant, il a très bien su comment faire lorsque, après la Seconde Guerre mondiale, il avait pour préoccupation principale de faire une place à la psychanalyse dans les grands débats de société. Il comprend très vite qu'il a deux alliés possibles. C'est vous qui le dites dans votre livre. D'un côté, l'Église catholique et de l'autre, le PCF, le Parti communiste.
53.
Comment fait-il pour séduire l'Église catholique d'un côté et le Parti communiste de l'autre ?
C'est très simple. Lacan était dans le camp de ce qu'on appelait la psychiatrie de secteur, la psychothérapie institutionnelle issue de la résistance, Bonafé, Saint-Alban, il était dans cette mouvance. Donc c'était toute cette psychiatrie incarnée par la résistance, et notamment la résistance communiste. 53, ça commençait la fin du stalinisme, la mort de Staline, et il avait compris que... au fond, c'était de ce côté-là que ça allait se passer pour la jeunesse. Il ne s'était pas trompé. Et puis, c'était le parti de la classe ouvrière. Donc, son discours de Rome, sa grande conférence à Rome, où il fait ses grandes déclarations, ce texte sur le langage et la parole, où Lacan sait qu'il est en train de devenir Lacan, qu'il est en rupture avec le freudisme classique. Il a une très forte conscience. Il le fait parvenir à Maurice Thorez par le biais de Bonafé, psychiatre de l'époque. Et puis, comme son frère est bénédictin, là, j'ai retrouvé l'archive, la lettre, et puis j'ai interrogé son frère. Il y a une lettre fameuse où il dit « Est-ce que tu ne peux pas donner mon discours de Rome à notre père commun, c'est-à-dire au pape ?» Il rêve de rencontrer le pape, mais Lacan ne doute de rien.
Non,
il n'ira pas en Chine après, mais son désir profond, c'était de rencontrer Mao Tse-Tung.
Et pourquoi par fidélité à la psychanalyse, par prosélytisme ?
C'est plus compliqué que ça. Je suis un maître, je suis
donc
un
je
penseur.
Rencontre tous les autres maîtres.
Oui, je n'ai aucune,
entre maîtres,
aucune
on
limite
comprend.
Pour rencontrer qui j'ai envie. Ça, c'est Lacan. Il faut le prendre comme ça. Alors, évidemment, le pape ne va pas recevoir Lacan. Mais on a le témoignage de Leclerc. Il est allé à Castel Gandolfo, espérant avoir une rencontre. Alors, maintenant, politiquement, c'est très habile, parce que qu'est-ce qui se passait à cette époque-là dans l'Église catholique ? Il y avait le discernement des vocations. Et donc, l'Église introduisait l'expertise psychiatrique chez les prêtres, notamment... toutes les expériences dans le monde entier, c'était l'idée de discerner si les vocations étaient vraies, il n'y a que l'Église catholique pour faire ça, ou si elles étaient névrotiques. Et ça tenait au fait que l'Église catholique, c'est quand même la seule Église qui réclame que les prêtres renoncent à la sexualité. Donc l'Église était consciente qu'un renoncement à toute sexualité pour l'engagement dans l'Église, ça pose problème. En gros, ils pensaient que ça pouvait être bourré de pervers, de psychotiques, de pédophiles, de gens qui avaient des troubles. Donc, on installe à partir des années 53-55 dans l'Église, à travers les jésuites et les bénédictins, j'ai rencontré les fondateurs de ce mouvement que j'ai vraiment raconté beaucoup, on installe l'idée que les prêtres doivent se soumettre à une cure pour voir si la foi résiste, si la foi résiste et si le sexe résiste. Eh bien, la plupart des prêtres analysés, en grande majorité, s'ils se sont défroqués, c'est pour des raisons pour se marier, ils ont pris des maîtresses, c'est-à-dire que le sexe, ça tient pas. Enfin, ça tient pour certains, bien entendu. Mais
donc la psychanalyse à l'épreuve de la foi. Enfin, plutôt la foi à l'épreuve de la psychanalyse.
Oui, mais la foi tient. Alors, ça, je le tiens vraiment d'un homme que j'ai beaucoup admiré, qui était le père Bernard, Louis Bernard, qui était un jésuite de la génération, très ami avec De Certeau, qui a été mon maître en histoire.
Michel De Certeau.
L'un était Michel De Certeau. L'un était analyste, Bernard. Certeau était un grand historien. Et la foi n'était pas touchée. Parce que la vraie foi, au sens catholique, que Lacan avait beaucoup mieux compris que Freud, était une démarche en fait intellectuelle, individuelle. C'est un dieu abstrait.
Et notamment, Lacan va aussi lire les mystiques, hein, Thérèse d'Avila, etc.
Dans c'est un grand lecteur des mystiques.
Voilà, c'est ça, dans lesquels
il y a des doutes, et surtout des...
où on retrouve des thèmes similaires à ceux de la psychanalyse.
La psychanalyse féminine.
Alors, il arrive, justement, et on en reviendra, parce que Lacan est aussi connu
donc
pour...
Donc, il sait qu'il y a deux forces.
Pour ses propos sur la jouissance féminine. Oui, là, ces deux forces, il les séduit, donc l'Église catholique d'un côté, le Parti communiste de l'autre.
Parce qu'ils sont prêts à être séduits, parce qu'il y a un mouvement d'ouverture de l'Église catholique et puis un mouvement de déstalinisation, notamment à partir de 1956, qui va commencer dans les partis.
L'obstacle qu'il va rencontrer, c'est plus tard, dans les années 70, quand va s'ouvrir, après l'ouverture du département de psychanalyse à l'Université de Vincennes, on va trouver comme professeur un certain Deleuze qui, avec Guattari, écrive un anti-Œdipe. Là, on est toujours en 73. Dans ce texte, il y a une forme de dénonciation du discours psychanalytique ambiant qui consisterait à réduire la psychanalyse à la fameuse trilogie papa, maman, enfant, tout est une affaire de sexe, tout est une affaire de complexe d'Œdipe. Or, Deleuze et Guattari disent « il n'en est rien ». Je cite rapidement un extrait du L'Anti-Œdipe. La première évidence est que le désir n'a pas pour objet des personnes ou des choses, mais des milieux tout entiers qu'il parcourt, des vibrations et flux de toute nature qu'il épouse en y introduisant des coupures, des captures, un désir toujours nomade dont le caractère est d'abord le gigantisme. Bref, les milieux sociaux, biologiques font l'objet d'investissements de l'inconscient qui sont nécessairement désirants ou libidinaux par opposition aux investissements préconscients de besoins et d'intérêts. En vérité, la sexualité est partout dans la manière dont un bureaucrate caresse ses dossiers, dont un juge rend la justice, dont un homme d'affaires fait couler l'argent, dont la bourgeoisie encule le prolétariat, etc.
J'ai été l'élève de Deleuze. J'ai été éblouie. J'ai suivi le séminaire. J'ai gardé toujours un lien très, très tendre avec Deleuze. Peu importe qu'il ait eu raison ou tort.
Pour Lacan, pas peu importe.
Alors,
quand même.
Oui, pour Lacan. Mais il y avait un message très fort chez Deleuze et Guattari, en tout cas Deleuze essentiellement, c'était l'idée de mettre en cause le complexe d'Œdipe. Bon, ça, ils avaient compris à juste titre que c'était devenu une psychologie familialiste insupportable. J'étais complètement d'accord avec eux.
Lacan véhiculait.
Comment ?
Que Lacan véhiculait.
Ah oui. À partir, si vous voulez, de 1972-73, le lacanisme, déjà du vivant de Lacan, 10 ans avant la mort de Lacan, ça commence à se dogmatiser. C'est parfaitement normal. Vous savez très bien que un maître arrive, il rénove, c'est comme ça l'histoire des révolutions, et puis après, attention, la révolution est une séance courte, et puis après, l'héritage est compliqué. Bon, parce qu'on instaure un nouveau pouvoir, c'est valable pour les mouvements psychanalytiques, et puis ça devient, ça ronronne. Bon. Moi, je commence, au fond, mon entrée dans le mouvement psychanalytique, c'est 69, j'assiste déjà à cette dogmatisation. Donc, pour des gens de ma génération, suivre le séminaire de Deleuze, puis le séminaire de Michel de Certeau sur l'histoire, puis aller aussi au séminaire de Lacan, puis lire Derrida, c'est formidable. C'est formidable parce que on prend ce qui est intéressant. Je dirais que ce que moi personnellement je pouvais critiquer chez Deleuze, c'est non pas du tout sa critique du complexe d'Œdipe, mais le fait que pour Deleuze, il le disait très clairement, il n'y a pas de tragique. Il n'était pas du tout dans les tragiques grecs. Mmh. Voilà. Donc pour lui, c'était les présocratiques, c'était
Et pourquoi c'est un problème désirants. L'absence de tragique ?
Parce que moi je suis très attachée au tragique. Je suis absolument convaincue que, alors ça c'était, j'ai parlé avec lui de ça, que ce qu'il faut conserver, c'est pas du tout le complexe d'Œdipe, mais l'idée que on est quand même, qu'on a un destin qui est inconscient. Moi, les tragédies grecques, je les trouve magnifiques.
La notion de destin est compatible avec la démarche psychanalytique.
Bien entendu.
C'est quand même de libération de son désir, au contraire.
Non.
Enfin, de reconnaissance de son désir et donc de libération
Absolument.
De contraintes
extérieures. Absolument, mais à partir de là...
Le désir est un destin.
L'homme est un destin. Autrement dit, Deleuze et Guattari, à la fin de sa vie, ils se sont rendus compte quand même que tout ça favorisait beaucoup que les médicaments et plus du tout le symbolique. Donc moi je pense que l'idée géniale qu'avait eu Freud, c'est moins le complexe d'Œdipe qui est un homme, que de découvrir qu'au fond, dans les tragédies grecques et dans le destin d'Œdipe, on obéit à un destin qu'on n'arrive pas à commander. Donc on est à la fois... marqué par un inconscient qui vous échappe et qui fait qu'on est condamné à répéter des choses. Et deuxièmement, qu'on est aussi le contraire de ça, c'est que si on prend conscience par sa propre analyse, on n'est pas forcé d'être analyste, mais on peut modifier le destin. Mais évidemment.
Bah alors, mais la notion même de destin tombe alors, si on peut le modifier.
Non, les deux existent. Même si on est conscient qu'on fait des répétitions, etc., on les fait quand même. Et puis, l'idée quand même qu'il y a cette idée que, non pas le familialisme, le pas patriarcat, etc., mais qu'il y a de la famille, de l'histoire du sujet inscrit dans quelque chose de familial qui se transmet, je le conserve.
Lacan a-t-il répondu à Deleuze et Guattari ?
Non, il n'était pas en état à l'époque.
Est-ce que sa santé se dégradait ? Ou pas encore,
en 1913. Lacan, à l'époque, et c'est là où il y a eu ce drame, même pour Guattari, qui était quand même analysé par Lacan, pour Derrida aussi, c'est que Lacan avait eu une reconnaissance intellectuelle à partir de 1966, l'année structuraliste. C'était tard pour Lacan, qui aurait voulu davantage. Et quand il regardait toute cette génération, plus jeune, au fond, il demandait une adhésion. Il n'acceptait pas les critiques de Derrida ou de Deleuze. Il avait tendance, il voyait bien que c'était fort. Il était quand même suffisamment intelligent. Mais c'est pour ça que Derrida témoigne de façon intéressante, et même Guattari, il n'acceptait plus la critique. Il voulait des fidèles. Et à ce moment-là, il était entouré de sa famille, de Jacques-Alain Miller, de ceux qui étaient les gardiens, qui devenaient les gardiens du temple. Il n'y a pas de doute. Le seul qui a échappé, c'est Foucault, parce qu'ils ne se sont quasiment pas rencontrés, et que Foucault, qui était très critique, était absolument sur ce plan-là, sur les positions de Deleuze, sauf que Foucault croyait... Enfin, était un lecteur des textes grecs et que pour lui le destin existait. Il a une autre interprétation naturellement de la tragédie d'Édipe. Ça c'est un autre débat. Mais disons que Lacan, ce Lacan-là à ce moment-là, n'acceptait plus le débat critique.
Alors, on n'a pas encore entendu la voix, enfin si on l'a entendu, mais on n'a pas entendu une prise de position théorique, disons, de Lacan sur un certain sujet. Voici sans doute le plus polémique d'entre eux, pour terminer cette émission, Elisabeth Roudinesco. Lacan est l'auteur de cette phrase, alors est-ce mot pour mot, ou en tout cas l'idée est la suivante, que la femme n'existe pas. Écoutez-le sans justifier.
Mais j'y peux rien, c'est pas moi qui ai fait ni l'homme ni la femme, enfin c'est... Un autre s'en est chargé, enfin, d'après la légende, n'est-ce pas? Bon. Alors, posons d'abord cet axiome, non que l'homme n'existe pas, ça c'est le cas de la femme, mais qu'une femme ne peut que se l'interdire. Je parle de l'homme. Alors, l'universel de ce qu'elle désire, n'est-ce pas? C'est ça que je veux dire quand je dis que... rencontre l'homme que dans la psychose, n'est-ce pas ? L'universel de ce qu'elle désire, c'est tout simplement de la folie. Et c'est pour ça que toutes les femmes sont folles, qu'on dit, n'est-ce pas ? Mais, c'est même pourquoi elles ne sont pas toutes. C'est-à-dire, pas folles du tout. Et qu'elles sont plutôt arrangeantes.
Bon, ça ne rend pas Lacan très sympathique aux oreilles féminines parmi
ça dépend comment on l'écoute.
Ah bon ?
Alors, cette phrase, la femme n'existe pas, que j'ai longuement étudiée, peut être évidemment prise dans plein de sens. N'oublie pas que Lacan avait le génie des maximes, des sentences. J'ai fait une entrée
de plus en
dictionnaire
plus,
amoureux. De plus en plus, il parlait pas.
Comparé à la Rochefoucauld, c'est ça.
Tout à fait. Et donc, les sentences, il faut les lire, elles sont incroyables. Bon. Alors... ce qui est intéressant, c'est que chaque fois qu'il en sortait une, elle était interprétée différemment. Par exemple, Juliette Mitchell, chef de file du féminisme anglais, quand elle a lu ça, elle a dit « la femme n'existe pas ». En effet, elle n'existe pas encore historiquement. Mmh. Et dans le monde anglophone, on a interprété cette femme en disant cette phrase en disant elle n'existe pas encore, allons, soyons féministes, faisons exister la femme. Il y a une autre interprétation qui est possible, c'est « la femme, elle a ». Grand L, grand F, n'existe pas, c'est-à-dire il n'y a pas de nature féminine. Bon, ce qui reprenait la thèse beauvoirienne. Il y avait une rencontre manquée entre Beauvoir et Lacan, mais ça peut être interprété comme ça. Et puis alors, évidemment, dans les conflits avec les féministes, ça peut être aussi, et ça l'a été, interprété par des lacaniens réactionnaires dogmatiques comme « Ah bah les femmes, les femmes n'existent pas ». Bon. Donc, la caractéristique de toutes les sentences de Lacan, c'est qu'elles sont interprétables.
Oui, mais en l'occurrence, il suffit de lire ce que Lacan a écrit dans ses écrits, ce qu'il a dit dans ses séminaires sur la jouissance féminine comme cet ailleurs, la jouissance comme étant
c'est
le propre de l'autre, donc de la femme, c'est-à-dire de celle que l'on ne connaît pas. Il y a quand même la pensée de Lacan sur la jouissance en particulier est phallocentrée, la femme est toujours l'autre. Donc c'est difficile ensuite de faire comme si la femme n'existait pas, était un appel à la libération de la femme.
Je comprends cette interprétation. Moi, j'ai pas eu ce ce problème subjectif en lisant ça. Lacan enfin, subjectif, aimait là, je parle pas de moi, en l'occurrence. Les femmes folles. N'oubliez pas,
oui,
le
cas
aimé,
ouais.
la psychose, il aimait les femmes mystiques, folles, absolument excessives. Donc sa thèse de la jouissance féminine, qui est intéressante, hein, qui a été d'ailleurs reprise, c'est la femme est un supplément, donc c'est pas une inégalité méprisante, c'est la femme nous déborde, nous les hommes. Autrement dit, Lacan pense cette sexualité féminine débridée, folle, la jouissance, l'extase du Bernard, chose de ça, comme quelque chose qui déborde complètement la rationalité. C'est pas entièrement faux si on se place de ce point de vue-là. Alors maintenant, on peut aussi considérer que Lacan a formé autant de gauchistes que de réactionnaires quasiment d'extrême droite aujourd'hui. Il y en a, tous ceux qui se sont opposés au mariage homosexuel, parce que sur l'homosexualité, on n'a pas le temps d'en parler,
non.
Mais c'était quelque chose aussi.
Oui.
Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut le voir comme ça. Il a formé de tout. Le pire, l'intéressant, moi, pour conclure, je dirais que pour moi, il faut être infidèle dans l'héritage pour mieux le comprendre. Parce que sinon, on tombe d'un côté dans la géographie, de l'autre côté dans la légende noire.
Soyons infidèles à Lacan et revendiquons
pour mieux, que... Pour mieux être fidèle.
C'est ça, et les femmes ne sont pas toutes hystériques quand même.
Évidemment.
Tous les miroirs, ce sont des menteurs, des bavards. Ce qu'ils reflètent certains soirs, souvent ne sont que racontards. Pour gagner quelques heures de gloire, c'est fou ce qu'ils vous feraient croire. Quand ils projettent quelque part, comme la lueur d'un regard. L'amour aussi trop compliqué, toujours quand on n'y tenait le plus, on se retrouve seul dans la rue, seul à pleurer.
Un grand merci Elisabeth Rodinesco d'être
merci
venue nous parler
vous.
De Lacan aujourd'hui. Je renvoie les éditeurs à votre livre Jacques Lacan, Esquisse d'une vie, histoire d'un système de pensée. Chez Fayard et puis au dictionnaire de la psychanalyse et au dictionnaire amoureux de la psychanalyse dont vous êtes également l'auteur. Sur France Culture,
le
les chemins de la
dictionnaire de la psychanalyse en co-auteur Michel Plomb.
Tout à fait, vous faites bien de le préciser, on mettra toutes les références en ligne sur le site des chemins de la philo. Chemin de la philosophie que vous écoutez, chers auditeurs, sur France Culture, il est temps comme tous les jours de retrouver le journal de la philo de Géraldine Mosna-Savoie.
On n'est pas là pour philosopher, Carpentier.
Quand même, incroyable.
Bonjour Géraldine.
Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous.
Votre actualité aujourd'hui, la disparition d'une actrice qui nous a quittés cette semaine.
Oui, j'ai envie de vous parler, Adèle, de l'actrice Stéphane Audran et de ce qu'on a dit sur elle cette semaine avec bourgeois, sophistiquée et distante est revenu ce mot de discrète pour qualifier son jeu. Et ce terme m'a frappée parce qu'il permet de se demander ce que veut dire jouer pour un acteur ou une actrice. Et oui, comment peut-on jouer discrètement? Et puis, qui est en jeu au fond? De qui parle-t-on quand on évoque la discrétion de Stéphane Audran, d'elle ou de ses personnages? Au fond, ma question est celle-ci. Qu'est-ce qui revient à l'acteur? De quoi est-il l'auteur? Et même plus largement, pour nous tous, de quoi sommes-nous les auteurs? Que montre-t-on de soi quand on se montre aux autres?
Vous savez ce que je préfère chez Hélène? C'est sa douceur. Elle n'en a pas l'air comme ça, mais elle est extrêmement douce.
Tu m'aimes?
Pourquoi tu me demandes ça?
Tu m'aimes?
Peut-on jouer la discrétion et comment? On pourrait penser en écoutant cet extrait de La femme infidèle de Claude Chabrol, sorti en 69, qu'il suffit de ne rien dire pour être discret. Alors bien sûr, ce serait trop facile. Tout est plutôt une question de présence, muette ou pas. Mais la question se repose quand même, comment être présent, mais discrètement? En 2013, le philosophe Pierre Zawi réfléchissait justement sur la discrétion et proposait un art de disparaître. Le livre reparaît d'ailleurs pour sa part dans une nouvelle édition dans quelques semaines. À une époque d'exhibition, l'idée développée est de préférer l'effacement à la mise en scène de soi. Mais sur une scène, dans un film et même face à d'autres, comment ne pas se mettre en scène? Peut-on se montrer à la fois mystérieux et réservé? Comment donc montrer le contraire de l'exhibition?
Vous fumez dans la rue?
Oui. Ça vous choque, hein?
Non, ça me choque pas. C'est rare, les femmes qui fument dans la rue.
C'est plus sain de fumer dans la rue que dans une maison.
Hein? Oui, c'est logique.
Vous aimez ça, la logique, vous, hein?
Comme dans La femme infidèle, dans ce film Le Boucher, puis dans les deux autres films suivants de Claude Chabrol, La rupture et Juste avant la nuit, Stéphane Audran interprète une femme qui s'appelle Hélène. C'est le cycle d'Hélène ou le cycle pompidolien de Chabrol, où Hélène désigne en fait le stéréotype de la femme bourgeoise, froide et hautaine. Et pour le jouer, Stéphane Audran mise sur la distance et le calme plutôt que sur la spontanéité de la nouvelle vague notamment. Elle tranche ainsi parce qu'elle montre une absence de réactivité et d'enthousiasme aussi. Tout ce qui serait de l'ordre de l'émotion apparaît précisément parce qu'il n'y en a pas, parce qu'elle est discrète, plus que discrète même. La discrétion est paradoxalement remarquée et c'est aussi ce qu'on entend dans cet extrait.
Je prendrais bien du caviar, mais j'ai peur qu'il soit pas de très bonne qualité et qu'ils en donnent trop peu. Je préfère mon caviar à moi.
Puisqu'il y a qu'on poisson.
J'aime beaucoup le poisson.
Eh bien, il y a des sardines grillées, des délices de sol, des merlans frits, de la raie au beurre noir, des quenelles de brochet nantuas, de la truite au bleu.
Il n'est pas cher, ce restaurant. Un restaurant pas cher où il n'y a personne, c'est inquiétant.
Vous croyez ?
Cette fois-ci, on a quitté Chabrol pour Buñuel et le charme discret de la bourgeoisie. Le personnage de Stéphane Audran, comme les autres d'ailleurs, se contente d'asséner des éléments de langage propres au discours bourgeois. On assiste autant à la discrétion crasse comme distinction sociale qu'à une discrétion frappante du jeu. En fait, on a ici l'illustration inverse du paradoxe du comédien développé par Diderot. Diderot soutenait qu'un bon comédien ne devait rien sentir pour jouer et faire apparaître au mieux les sentiments qu'il interprète. Eh bien ici, on a l'inverse, ressentir des émotions, soi pour soi, mais ne rien en montrer surtout, se contenter de jouer un jeu social.
C'est un mari épatant parce que il est drôle, il s'intéresse pas seulement à son métier qui est quand même un métier drôle, mais enfin, vous savez, il s'intéresse aussi à autre chose.
À quoi ?
Pouf, à tout ça, à la musique, à la politique, à...
Je m'aperçois que je l'aime quand même assez profondément parce que je l'aime plus quand elle est là que quand elle n'est pas là.
Mais ça, c'est un film. Non, c'est Stéphane Audran elle-même qui parlait.
Voilà, Stéphane Audran elle-même, c'est une archivina avec Claude Chabrol qui dit donc qu'il la préfère quand elle est là plutôt que quand elle n'est pas là. C'est quand même un très beau compliment. Donc ma question de départ, je le rappelle, avec le jeu de Stéphane Audran qu'on a qualifié de discret, était de voir ce qu'un acteur ou une actrice pouvait montrer de lui ou d'elle aux autres. Question qui s'applique à tous, dès qu'on est face aux autres, que peut-on montrer de soi? Comment faire coïncider acteur et auteur? Alors l'alternative est la suivante, se montrer tout en étant discret, ou se cacher en jouant nécessairement un jeu. Et puis, il y a aussi une troisième possibilité, en fait, être soi en jouant.
Merci Géraldine pour cet hommage à l'actrice Stéphane Audran. Est-ce que vous nous conseillez de lire un livre ou de regarder un film?
Alors, il y a La femme infidèle qu'on peut revoir en replay sur Arte. Et puis, il y a aussi Le paradoxe du comédien qui est paru aux belles lettres avec un entretien de Denis Podalydès. Et puis, La discrétion de Pierre Zawi que j'ai cité qui reparaît donc début mai aux éditions Autrement.
C'est noté. Merci à vous. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du journal de la philo. Et un grand merci à David Pargamin qui a préparé cette émission, ainsi que Marianne Chassor, Géraldine Mossin-Savoie, bien sûr, Isis Jourda, Maude Markiewicz. C'était Nicolas Berger à la préparation de la semaine, Anthony Thomasson à la prise de son et Véronique Lamandour à la réalisation aujourd'hui. On se retrouve eh bien demain pour le forum organisé par France Culture à la Sorbonne autour du thème « Les révolutions de l'intelligence ». Je vous donne rendez-vous à 11h30 pour un débat autour de cette question « À quoi ressemble le cerveau des philosophes ?» Ce sera en compagnie de Cynthia Fleury, Justine Barbier, Hervé Schneves et Étienne Klein. Un débat qui sera pour la première fois retranscrit sur Facebook, en Facebook Live, où vous pourrez nous poser vos questions auxquelles eh bien, mes invités tenteront de vous répondre. Ça, c'est demain à 11h30 donc, et toute la journée. Hein, c'est organisé par France Culture et vous pouvez vous inscrire sur le site de France Culture. Et on se retrouve également lundi prochain pour une nouvelle série d'émissions sur le son. On montrera le son, on se demandera si le son est un concept, on parlera de la rêverie sonore de Bachelard, Jean Lebrun viendra nous parler de l'autre côté du poste, et Christophe Chassol de son et musique. Tout de suite sur France Culture, à 11h, il est temps de retrouver Culture Monde par Florian Delorme.